plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Je ne sais plus ce que j'ai fait quand je me suis décidé à rentrer à la résidence. La scène de la bastonnade m'avait bouleversé. Il y a des spectacles qu'il vaudrait mieux ne jamais voir. Les voir, c'est se condamner à les revivre sans cesse, malgré soi. Je crois que je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Jamais je n'oublierai le cri guttural et inhumain du plus petit des suspects quand Giancula lui assena le coup de crosse qui réussit à arracher tout de même un juron à M. Moreau et qui fit tomber le cigare de M. Giannopoulos. Les blancs s'en allèrent en haussant les épaules et en parlant avec les mains. M. Moreau se retourna brusquement et m'appela avec son index. Il me prit à l'épaule tandis que M. Giannopoulos lui faisait des coups d'œil entendus. Je sentais sa main brûlante et humide à travers mon tricot. Quand nous fûmes hors de la portée de M. Giannopoulos, M. Moreau lâcha mon épaule et fouilla dans ses poches. Il m'offrit une cigarette et alluma la sienne.
Tu ne fumes pas ?
Pas avant la nuit, répondis-je, ne sachant quoi lui dire. Il haussa les épaules et tira une longue bouffée de sa cigarette.
Tu diras à madame que je serai là vers, voyons, je serai là vers 3 heures, compris ?
Oui, monsieur. Il m'empoigna par la nuque et me força à le regarder. La cigarette que j'avais gardée derrière l'oreille tomba. Pour ne pas le regarder, je voulus me baisser pour la ramasser. Il posa son pied dessus et je sentis ses doigts durcir sur ma nuque.
« Fais pas le malin avec moi, compris ? »
souffla-t-il en m'obligeant à me relever.
« Écoute, mon petit, les Lascars, ça me connaît. Tu as vu ?»
dit-il en pointant son pouce derrière son épaule en direction de la prison. Il me lâcha le cou et me regarda en roulant de grands yeux. Il sourit et me lança son paquet de cigarettes. Cela était si inattendu que je ne pus le saisir au vol. Il passa par-dessus ma tête.
« Ramasse le paquet, il est à toi !»
dit-il en s'esclaffant.
« Tu sais, quand on est gentil avec moi, je fais des cadeaux. Toi, tu es mon ami, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur. »«
Bien. Te rappelles-tu ce que je t'ai dit ?»«
Oui, monsieur. »«
Qu'est-ce que je t'ai dit ?»«
Vous avez dit que vous viendrez voir madame à 3 heures. »«
Bien. N'oublie pas de le lui dire. Quand le commandant revient-il ?»«
Je ne sais pas, monsieur. »«
Bon, tu peux filer. »
dit-il en me jetant un billet de 5 francs. Il tourna les talons. En arrivant à la résidence, je m'aperçus que ma mère avait mis le billet en morceaux. Madame guettait mon retour. En faisant semblant de s'occuper des fleurs, elle vint au devant de moi, puis son sourire se figea. Elle devint toute rouge. Elle essaya sans succès de soutenir mon regard. Elle se donna une claque sur la jambe pour y écraser une mouche imaginaire. « Il viendra à 3 heures, à l'heure de la sieste, » dis-je en m'éloignant. Ses lèvres remuèrent. Sa poitrine se souleva et s'affaissa comme un soufflet de forge. Son teint devint terreux et elle resta le menton niché dans sa main gauche. L'autre pétrissait un pan de sa robe. Quand j'eus rejoint le cuisinier, il me dit « Tu vas te créer des ennuis en parlant tout le temps avec madame, avec ton sourire en coin. Tu n'as pas entendu comment elle t'a dit « Merci, monsieur Tundi. » Tu sais, quand un blanc devient poli avec un indigène, c'est mauvais signe. » Bien avant 3 heures, M. Moreau était là. Madame l'attendait en se balançant dans son hamac. Il avait changé de chemise. Il portait par-dessus son short kaki de ce matin une grande chemise de soie bariolée qui ressemblait à un boubou de Haoussa. Il n'avait pas pris le sentier qu'il avait tracé de ses pas et par lequel il débouchait directement sous la fenêtre de la chambre de madame par les nuits de clair de lune quand le commandant n'était pas là. Nous nous demandions pourquoi il avait pris la grande route où on pouvait le voir de la maison du docteur, en contrebas de la résidence. Il avançait en faisant tourner une chaînette au bout de son index. Quand madame l'aperçut, elle m'appela pour que je prépare 2 whisky. Madame boit toujours de l'alcool en l'absence de son mari. Elle sauta de son hamac et tendit son bras nu jusqu'à l'épaule au régisseur de prison qui posa longuement ses lèvres en attendant sûrement mieux. Madame se tortilla en se dressant sur ses orteils. Ils rirent ensemble et pénétrèrent au salon. Madame s'assit sur le divan et fit signe au régisseur de prendre place à côté d'elle. Je leur approchai une table basse où j'avais servi les 2 whisky.
« Il est drôle, votre boy !»
dit M. Moreau au moment où j'allais me retirer.
C'est Monsieur Tondi.
Depuis combien de temps l'avez-vous à votre service?
C'est Robert qui l'a engagé. Il paraît que c'était le boy du révérend Père Gilbert. Son successeur en avait dit beaucoup de bien, mais c'est un esprit chimérique, enclin à la folie des grandeurs. Depuis un certain temps, il prend des libertés, mais il sait maintenant à quoi s'en tenir.
Monsieur Moreau se souleva à moitié et écrasa sa cigarette dans le cendrier. Il avait roulé, écarquillé, fermé et rouvert ses yeux avec de grands mouvements de sourcils pendant que madame parlait. Il me foudroya du regard, une mèche rebelle qui pendait sur son front remua. Il se frotta les mains et se pencha vers madame. Ils me regardèrent en même temps.
« Approche-toi !»
Puis s'adressant à madame.
« Voyez-vous, il n'ose pas nous regarder. Son regard est aussi fuyant que celui d'un pygmée. Il est dangereux. C'est comme ça chez les indigènes. » Quand ils n'osent pas vous regarder, c'est qu'ils ont une idée bien arrêtée dans leur tête de bois.
Il me saisit par le cou et me força à le regarder. Il n'eut aucun mal pour cela et dit en détournant la tête.
C'est étrange. Vous feriez mieux de le congédier. Je vous trouverai autre chose. La place de celui-ci est chez moi, à Bécon.
Mais Robert tient à lui et lui trouve je ne sais quelle qualité. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de le renvoyer. Mais vous savez comme Robert était tu.
Ainsi, c'était grâce au commandant que j'étais encore à la résidence. J'avais bien raison de craindre son absence.
Ce n'est pas la peine de faire semblant de t'occuper à ranger la vaisselle. Débouche une bouteille de Perrier et laisse-nous tranquilles, Monsieur Tundi.
Je leur apportai la bouteille pétillante. Madame a-t-elle encore besoin de moi?
Non.
Je m'inclinai et sortis à reculons. Quand je fus sous la véranda, j'entendis la porte claquer et la clé tourner dans la serrure. Madame faisait son courrier. Elle levait de temps en temps la tête et ses yeux erraient, sans me voir, sur le réfrigérateur que j'étais en train d'astiquer. Elle repoussa la table sur laquelle elle était en train d'écrire et vint cueillir quelques pétales d'hibiscus dans le bouquet du salon. Elle les mit dans l'enveloppe, la mouilla avec sa petite langue rose et la colla. Elle se leva, prit ses papiers et disparut dans sa chambre.
Boy, ma douche est-elle prête?
Oui, madame. Elle essaya de siffler, mais comme elle semblait manquer de souffle, elle se tut. Le bruit d'un flacon se brisant sur le ciment lui arracha un zut. Elle m'appela pour que j'enlève les débris. C'était l'un des flacons de produits qu'elle met sur son visage le soir. Des fragments de verre avaient pénétré sous le lit. Je m'agenouillai et sondai le dessous du lit d'un grand coup de balai qui ramena non seulement les débris de verre, mais aussi de petits sacs de caoutchouc. Il y en avait deux. Quand madame n'entendit plus le frottement du balai, elle se retourna. En me voyant en train de tourner et de retourner les petits sacs avec mon balai, elle bondit sur moi et tenta de les repousser sous le lit d'un coup de pied. Elle ne réussit qu'à en piétiner un qui éjecta un liquide sur le sol.
Fiche-moi le camp, fiche-moi le camp, c'est ça. Tu ne sais pas ce que c'est, hein? Tu ne sais rien, ce sont des préservatifs, m'entends-tu? Des préservatifs, oui, des préservatifs. Va le raconter partout. Cela te fera un sujet de conversation avec tous les boys des Danga. Allez, fiche-moi le camp.
Il y a des moments où les colères d'un blanc vous laissent sans réaction. Vraiment, j'avoue que du coup, je ne comprenais rien, absolument rien. Madame me poussa dehors et je me retrouvai abasourdi à la véranda. Le cuisinier me guettait de la fenêtre de la cuisine. Il hocha tristement la tête, frappa sa main droite contre la gauche et appliqua la paume de cette dernière contre sa bouche. Cette façon qu'il avait de montrer son étonnement avait le don de m'exaspérer. Il détourna la tête et disparut. Je tenais encore stupidement mon balai. Je descendis l'escalier et revins à la cuisine. Le cuisinier me tourna le dos et s'abstint pendant un bon moment de m'adresser la parole. Enfin, il parla.
Tundi, tu ne connaîtras jamais ton métier de boy. Un de ces quatre matins, tu seras cause d'un malheur. Quand comprendras-tu que, pour le blanc, tu ne vis que par des services et non par autre chose? Moi, je suis cuisinier. Le blanc ne me voit que grâce à son estomac. Vous, les enfants de nos jours, je ne sais pas ce que vous avez. Depuis les Allemands, le blanc n'a jamais changé. C'est moi qui le dis. il n'a fait que changer de langue. Vous, les enfants de nos jours, vous nous désolez.
Il fit une pause.
Qu'est-ce que tu as encore fait à madame ce matin?
Il répéta sa question.
Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Je suis plus vieux que toi. Tu pourrais être mon fils. C'est la voix de la sagesse qui te parle. Hors de son trou, la souris ne défie pas le chat.
Ce que tu dis est la vérité. Mais dis-moi, ces petits sacs de caoutchouc, le boy ne peut-il pas... Il ne me laissa pas achever. Un rire énorme fendit latéralement son visage grave de l'instant d'avant. Il se laissa choir sur une caisse vide, secouée par les spasmes du rire. Il me regarda et se mit à rire de plus belle. Bakulu accourut de la buanderie.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Le cuisinier se tenait les côtes. Il leva les bras dans ma direction. Une crise de rire le fit baisser aussitôt. Il halétait et se suya les yeux. Pendant ce temps, Bakulu montrait ses dents de chèvre en se donnant une avance sur le riz que le cuisinier lui promettait en soufflant. Attends, attends. Il se calma enfin et remonta son pantalon avec ses avant-bras. Puis il s'avança vers le buffet comme un gorille vers un arbre. Il se versa un petit verre de vin rouge. Il se racla la gorge et revint s'asseoir sur la caisse.
Des occasions de rire comme ça, on en trouve une fois par an.
Il se suit à nouveau les yeux.
Ne sois pas égoïste,
dit Bakulu qui s'impatientait.
Combien me vends-tu la nouvelle?
Une femme,
dit le cuisinier en éclatant de rire. Cela signifiait que la nouvelle coûtait tellement cher qu'il préférait la lui annoncer pour rien.
Eh bien, Tundi et madame se sont querellés pour les petits sacs.
Lesquels?
Les petits sacs de caoutchouc, tu sais, que les blancs.
Il termina sa phrase en empoignant ses parties. Bakulu se plia en deux, fit marche arrière jusqu'à ce que son derrière cogna le buffet. Il se laissa glisser à terre et ses épaules se soulevèrent et s'affaissèrent successivement tandis qu'il laissait échapper de petits jappements de chien. Le cuisinier se leva et alla lui tapoter l'épaule.
« Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça, »
dit Bakulu en époussetant le fond de son pantalon.
« Raconte-nous ça, petit, »
me dit le cuisinier en me donnant une bourrade. Il ne me laissa pas commencer.
« C'est blanc, avec leur manie d'habiller tout, même leur...
Ah. »
Il se mit encore à rire.
« Ça même, ça sert à quoi ?»
demanda Bakulu d'une manière faussement naïve.
« Paraît que c'est pour faire bien. Ils mettent ça comme ils mettent le casque ou les gants. »
disait le cuisinier avec de petits airs entendus qui narguaient ma naïveté.
« C'est très juste. C'est un petit vêtement pour ça ?»
Il rit encore.
« Je me sauve. J'ai deux paniers de linge sale. »
Le cuisinier renifla, se suyant le nez du revers de sa main.
« Petit, tu sais bien qu'on rit partout, même quand on veille un mort. J'espère que tu ne m'en veux pas pour ce satanerie qui m'a pris tout à l'heure. »
Il sourit encore, puis redevint grave.
« Je comprends que tu es exaspéré, madame. Ton balai a été un peu loin. Vois-tu, c'est un peu comme si tu avais découvert la chose de M. Moreau à la résidence. Une femme ne pardonne pas ces choses-là. C'est plus grave que si tu avais regardé sous sa robe. Une femme blanche n'admettra jamais que son boy fasse de pareilles découvertes. »
Il faisait beaucoup d'efforts pour ne pas rire encore. Sa puissante mâchoire inférieure tremblait. Il me tourna le dos, un spasme secouait sa nuque. Madame apparut sur le perron. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle m'appela enfin pour que je lui donne le balai. Elle me l'arracha des mains et disparut. Un moment plus tard, j'entendis le petit bruit sec de la paille sur le ciment.
Elle va balayer elle-même sa chambre, à ce que je vois. Si au moins elle pouvait venir faire elle-même la cuisine.
Elle balaye elle-même sa chambre? Si elle pouvait aussi laver son linge.
À 11h, lorsque madame eut fini de s'habiller, la femme du docteur vint la chercher en voiture.
Je ne rentrerai pas déjeuner.
La voiture démarra. Elle avait à peine disparu que Bakulu et la sentinelle nous rejoignirent. Ils commencèrent encore à rire. « J'avais tout entendu. Je pensais que j'allais éclater avec cette maudite ceinture, » dit le garde. Il pinça sa cartouchière.
Qu'est-ce que les Blancs n'iront pas inventer? Ils sont déjà ainsi concis comme ça et ils éprouvent encore le besoin de se fabriquer d'autres enveloppes.
Celles qu'on achète à la pharmacie empêchent leurs femmes d'être enceintes. Ils les emploient aussi quand ils couchent avec les femmes indigènes pour ne pas avoir de maladie. C'est l'infirmier qui m'a dit ça.
Alors, pourquoi font-ils la chose? Ils sont fous, ces Blancs. Comment peuvent-ils dire qu'ils font la chose si c'est avec un peu de caoutchouc? Ils discutèrent préservatifs tout l'après-midi. Madame revint à 4 heures. Elle traversa la cour, la tête à demi baissée. Elle s'engouffra dans sa chambre et ne reparut qu'au dîner. Elle toucha à peine au poulet, mangea une banane et but sa tasse de café habituelle. Elle avala des comprimés et nous dit de ne pas partir avant minuit. Quand nous partîmes, elle ronflait déjà. La sentinelle m'aida à fermer les fenêtres et les portes de la résidence.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Présentation et réalisation à Aussi Potin.